Donc, je suis vraiment satisfaite et contente aujourd'hui de pouvoir être avec mes collègues alliés, travailleuses du sexe et usagères de drogue, issues de la communauté trans, les hommes qui travaillent dans l'industrie. Donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir une idée globale de qu'est-ce qui se passe. Le préambule du projet de loi nous victimise et remarginalise les travailleuses du sexe en prenant en considération comme si le travail du sexe, la prostitution, c'était toujours de l'exploitation. Ça nous laisse aucune place, nous, pour dénoncer les moments de violence si tout le temps notre travail est de la violence. Et donc, pour lutter contre la violence faite contre les femmes, on doit décriminaliser le travail du sexe et prendre en considération les voix des travailleuses. L'esprit du bill reconnaît absolument pas les 30 ans de lutte des travailleuses du sexe canadiennes et toutes nos demandes et analyses qu'on a faites dans les dernières années. Et totalement à l'opposé de l'esprit de l'arrêt Bedford également, qui nous avait donné une décision phare qui pouvait nous aider comme société à intégrer, inclure les travailleuses et arrêter la stigmatisation. À Stella, on est des femmes cisgenres, on est des femmes transgenres, on est des mères monoparentales, on est des étudiantes, on est des infirmières, on est des usagères de drogue, on est vivantes, on veut que notre communauté soit respectée et surtout pas criminalisée. Donc, on va le redire, les lois criminelles sont pas la solution pour encadrer le travail du sexe et sont surtout pas la solution pour assurer la sécurité de nos consoeurs et confrères ici au Canada et partout dans le monde.
We're against Bill C-36 because we believe that sex workers deserve rights, the right to work in health, safety, and dignity. That's why Stella was founded. We know from doing our street outreach shifts that sex workers on the street deserve the right to work with others on strolls where they feel safe, where it's safe for them to actually negotiate with their clients and to work with other people and to take the time to screen clients. If clients fear arrest and imprisonment, and are trying to avoid the police, this is what causes displacement. Displacement of sex workers to less well-lit areas because sex workers are going to follow their clients. It's their income. We already know that displacement kills. Large numbers of sex workers in Montreal have already been displaced from the red light district to dangerous, isolated, poorly lit areas in industrial neighborhoods and experience already much higher rates of violence. This is confirmed also in Vancouver's downtown east side and by two government studies that show direct links between criminalizing the ability of sex workers and clients to negotiate on the street to increase violence towards sex workers. We see the same in our bad trick list every time there are raids against large numbers of clients that sex workers actually end up out on the street longer and facing higher rates of violence. We hear often from the escorts that we're speaking with that sex workers need to communicate openly about their sexual services, and escorts often as a security practice will actually request the real name of their clients so that they can actually screen and have this information as an important security tactic. Again, if clients fear 5 years imprisonment, this security tactic that's crucial to sex workers' safety will be extremely difficult to enforce. Sex workers online have the right to, who are working online have the right to work freely from surveillance of their phones and emails. And sex workers who work in massage parlors and dance clubs shouldn't be subject to police raids, worried about their line of work being shut down, and fearful of keeping important health tools like condoms on site for fear that it could be used in evidence against their place of work. C-36 will maintain adversarial relationships between sex workers and the police because it'll be continued hiding. So if sex workers ever did need help, they'd be very unlikely to go to seek any assistance. This is especially true because too often violence towards sex workers can even come at the hands of police, especially for black sex workers, for indigenous sex workers, and for trans sex workers. The government needs to fight poverty and not sex workers. If it wants really more options and alternative for sex workers, then gutting social housing and welfare, access to drug treatment for sex workers who do use drugs, ignoring the calls of Indigenous women for investigations into missing and murdered women, these are not being focused on by Bill C-36, just the opposite. Bill C-36 is not fighting exploitation. And criminalizing the sex industry is putting sex workers in danger. Sex workers shouldn't be punished with violence and precarity if they do choose to keep working in the sex industry. Sex workers have been fighting for decades for decriminalization and to work in safety, and this was upheld by the Supreme Court. But we can see now with Bill C-36 that sex workers' voices are still being ignored.
Merci, Robin.
Merci, Robin. Comme a été souligné, ASTEC milite pour faciliter l'accès aux soins de santé et pour défendre le droit à l'autodétermination quant à notre identité de genre, à l'abri de la violence, de la discrimination et de la coercition. Un grand nombre des personnes qui utilisent nos services sont venues à Montréal à cause de l'absence de services adaptés dans leur région d'origine ou parce que leur vie y était en danger. Malheureusement, l'ignorance et la peur des personnes trans persistent ici aussi à Montréal. Les personnes trans qui utilisent nos services se voient régulièrement refuser l'accès au logement, à l'emploi et aux services de santé à cause de leur identité. Elles sont harcelées dans la rue. Elles font face à des barrières administratives et économiques qui les empêchent de compléter leur transition de genre au niveau social, physique et légal. Dans un tel contexte de précarité et de rejet récurrent sur le marché du travail, plusieurs personnes trans choisissent de faire le travail du sexe pour gagner leur vie et ou pour compléter leur processus de transition. Aztec rejoint les travailleurs et travailleuses du sexe trans à nos locaux, dans la rue, dans les bars et dans les salons de massage. Nous leur donnons du matériel de sécurité sexe, environ 23 000 condoms distribués en 2013, des conseils et des références à des services appropriés sur demande. Aztec estime que les travailleurs et travailleuses du sexe ont le droit de travailler en santé, en sécurité et avec dignité. S'il est adopté, nous jugeons que le projet de loi C-36 nuirait directement aux personnes trans qui font le travail du sexe. En obligeant les travailleurs et travailleuses du sexe à travailler loin des espaces publics où pourraient se retrouver des mineurs, la loi les forcerait à s'isoler davantage. Les travailleuses du sexe trans sont déjà plus vulnérables au harcèlement et à la violence dans les espaces publics puisqu'elles sont visibles et parce qu'elles incarnent chez plusieurs le stéréotype de la travailleuse du sexe. En effet, beaucoup de femmes trans se font régulièrement harceler dans la rue par des policiers qui les accusent de faire le travail du sexe. Le fait de travailler dans des secteurs moins fréquentés et plus isolés rendrait les travailleuses du sexe trans davantage vulnérables à la violence de la part de clients et d'autres individus transphobes et putophobes. En criminalisant les clients et les parties tierces, la loi créerait un climat de peur dans lequel il serait plus difficile pour un ou une travailleuse du sexe d'accéder à de l'aide lorsqu'elle est victime de violence ou de coercition. Pour les travailleurs et travailleuses du sexe trans qui sont souvent déjà isolés à cause de la transphobie, des barrières liées à la langue, la migration et ou de la pauvreté, l'isolement serait accru. La criminalisation des parties tierces aurait également pour impact de fragiliser les liens de soutien développés entre travailleurs et travailleuses du sexe pour s'entraider et se conseiller sur comment éviter les mauvais clients, comment négocier le sécurité sexe, comment accéder aux ressources de santé, etc. Enfin, en proposant de criminaliser les clients et les parties tierces et en bannissant à des zones inhabitées le travail du sexe, ce projet de loi stigmatise davantage le travail du sexe et indirectement les personnes trans. Il nourrit la haine et l'incompréhension. Le projet de loi a pour but de protéger les personnes vulnérables à l'exploitation, mais en effet, il s'attaque directement aux personnes les plus vulnérables. S'il est adopté, il minera encore plus les stratégies utilisées par les travailleurs et travailleuses du sexe trans pour travailler en sécurité et en dignité. Les travailleurs et travailleuses du sexe trans ne sont pas des victimes. Ce sont des personnes individuelles et courageuses qui réussissent à vivre leur vie et leur identité de genre malgré des pressions importantes qui les pousseraient à faire autrement. S'il y a un réel désir de contrer les violences vécues par les travailleurs et travailleuses du sexe, il est essentiel d'inviter ceux et celles-ci à la table pour développer ensemble des programmes et des solutions qui prennent en compte leur réalité et qui répondent à leurs besoins.
Réseau trouve important de démontrer qu'une criminalisation du travail du sexe peut avoir des impacts sur la santé des travailleurs du sexe et sur celle de leurs clients. Réseau est un organisme de promotion de la santé et du mieux-être auprès des hommes gays et bisexuels. Nous offrons, entre autres, depuis plusieurs années, des services d'aide psychosociale et de santé auprès des travailleurs du sexe de Montréal. Le programme Travailleurs du sexe de Réseau existe depuis plus de 17 ans. Nous n'avons jamais été aussi préoccupés par la santé mentale et physique des hommes qui exercent le travail du sexe. Les discussions sur la criminalisation nous inquiètent et nous angoissent. Nous avons toujours travaillé pour une meilleure santé, sécurité et dignité des travailleurs du sexe. Nous préconisons un plus grand accès aux services de santé. Les conséquences de la criminalisation sur la santé physique et mentale des travailleurs du sexe et des clients sont de tout ordre et sont inquiétantes. Une criminalisation pourrait les amener à vivre des conditions encore plus précaires que celles vécues aujourd'hui. La peur de se faire arrêter et amener au poste de police les pousse à se déplacer vers des lieux isolés. Les travailleurs du sexe se retrouvent ainsi dans des contextes où ils ont peu de protection et où il est difficile de sélectionner les clients. Cet isolement augmente les risques de violence, d'enlèvement, de disparition et d'agression sexuelle. Cette violence a un grand impact sur la santé sexuelle et risque plus élevé de contracter le VIH. Il devient aussi plus difficile pour les travailleurs du sexe de négocier avec leurs clients la relation sexuelle et le port du condom. Si l'utilisation d'outils de rencontre comme l'Internet, le téléphone ou les annonces classées sont prohibées, les travailleurs du sexe ne seront plus en mesure de négocier convenablement une rencontre sexuelle égalitaire et respectueuse. Une surveillance policière de ces moyens de communication confinerait les clients ainsi que les travailleurs du sexe à retourner dans les ruelles. Ces travailleurs pourraient donc voir leur sécurité et protection réduites. Il serait difficile de sélectionner des clients, d'évaluer le danger potentiel et de négocier le sexe sécuritaire. Les lois criminalisant certains aspects du travail du sexe limitent l'accès des travailleurs du sexe à des services de santé essentiels, dépistage du VIH et des autres infections transmissibles sexuellement et par le sang, et éducation sexuelle. Ces lois limitent l'accès à des traitements appropriés et à du soutien nécessaire. À cet égard, une étude de la revue scientifique de Lancet a démontré lors de la conférence sur le sida de Melbourne qui s'est tenue en juillet dernier que la criminalisation de la prostitution augmente les risques d'infection du VIH-sida. Les quadrilatères imposés par la cour ou par le corps policier lors d'une arrestation ou comme condition de probation empêchent certains travailleurs du sexe de recevoir des services qui sont présents dans les zones interdites, tels que les banques alimentaires, les hébergements d'urgence, les centres de jour, les cliniques médicales, les organismes de distribution de matériel de prévention, etc. Si les limites du quadrilatère ne sont pas respectées, les travailleurs du sexe risquent d'être arrêtés de nouveau et d'être remis en prison, ce qui aura des répercussions négatives sur leur santé.
À l'absurde, nous croyons que le projet de loi C-36 met en péril la santé et la sécurité des personnes qui effectuent le travail du sexe et qui consomment des drogues. Selon l'article 286.2, fournir la drogue à une travailleuse du sexe sera criminalisé. Cet article s'applique même à un colocataire, une personne à charge, quelqu'un de l'entourage. Donc, ce qui a pour effet d'isoler davantage les travailleuses qui consomment des drogues et les travailleuses et travailleurs, et d'accroître aussi la stigmatisation dont elles sont victimes en criminalisant les membres de leur entourage. Le projet de loi C-36 criminalise aussi le client, ce qui a pour effet d'augmenter la pression sur les travailleuses et travailleurs. Ces dispositions vont les contraindre à s'éloigner de leur quartier, donc s'éloigner de leurs repères, de leurs ressources. Est-ce qu'elles vont devoir travailler dans des secteurs industriels? Vont-elles avoir le droit de travailler? Déjà, c'est déjà assez difficile de le déterminer. Si les travailleurs se déplacent, ils n'ont plus accès à leurs ressources, elles perdent beaucoup de sécurité. Et entre autres, par exemple, chez Stella ou dans d'autres organismes, elles peuvent remplir un bulletin stellaire afin de dénoncer les mauvais clients. Donc, si on perd cet accès-là aux ressources, ben on perd cette sécurité-là. Et cette possibilité-là aussi de se défendre. Si on n'a pas accès aux ressources, ça va être plus difficile aussi d'échanger des seringues neuves contre des seringues usagées et d'obtenir aussi des condoms. Donc, le risque de contracter une TSS, le VIH, le VHC va être accru. On pourrait retrouver plus de seringues par terre dans des endroits où on n'avait pas l'habitude d'en retrouver. Les seringues pourraient être utilisées plusieurs fois par les personnes qui s'injectent des drogues, ce qui va complètement à l'encontre des recommandations de la Direction de la santé publique. Et ça pourrait aussi exacerber au sein de la population les irritants liés au travail du sexe, puisque les travailleuses qui en ont besoin vont se retrouver en situation précaire parce qu'elles n'ont plus accès à leurs ressources et aux organismes qui les soutiennent. Loin de leurs repères et de leurs fournisseurs habituels, les travailleuses et travailleurs du sexe peuvent se voir contraindre à accepter une quantité de drogue moindre comparativement à la valeur habituelle
parce qu'elles n'ont pas accès à une alternative. Ne pas faire affaire avec son ou ses fournisseurs habituels augmente le risque de se voir refiler de la fausse drogue ou pire, une quantité beaucoup plus forte qui pourrait provoquer une surdose. Ce genre de situation rend les travailleuses et travailleurs du sexe plus vulnérables aux abus par les clients et par les gens qui leur fournissent des drogues. Nous croyons que le projet de loi C-36 met en péril la santé des travailleuses et travailleurs du sexe parce qu'il vise à criminaliser le client et l'entourage de la travailleuse et du travailleur, ce qui a pour effet de les isoler, de diminuer le nombre de clients achetant des services sexuels et donc d'accentuer la pauvreté chez les travailleurs et travailleuses. Une consultation qui a été menée par nous cette année auprès des personnes utilisatrices de drogue nous a permis de découvrir, en fait, on s'est fait confirmer que les travailleurs et travailleuses, les travailleuses surtout, vont prendre plus de risques liés à leur santé lorsqu'elles sont soit en manque d'argent ou en manque de drogue. Donc, à partir du moment où on réduit l'accès, où on diminue le nombre de clients, où on diminue les possibilités de travailler, bien, à ce moment-là, on va prendre plus de risques pour sa santé. Donc, on pense que plutôt que la répression, il faudrait soutenir les organismes qui soutiennent les travailleuses et travailleurs du sexe et qui leur donnent des services. Et puis, on doit aussi rassembler les conditions favorables pour que les travailleuses puissent pratiquer leur métier sans crainte pour leur sécurité et leur santé.
En fait, je voulais dire trois choses aujourd'hui. En premier, ça fait plaisir d'être là en tant qu'allié, d'être en solidarité avec les travailleuses du sexe. Nous sommes en accord avec l'argument justement que la criminalisation du travail du sexe augmente la violence à laquelle sont confrontées les travailleuses. Et en fait, les féministes ont toujours dit qu'il faut écouter les femmes qui sont directement concernées par une problématique. La deuxième chose que je voulais dire, en fait, c'est de souligner l'importance et la nécessité même de pouvoir parler de ces enjeux, de ces questions, avec nuance, plein d'ambiguïté, plein de contradictions. Et c'est un véritable défi. Vous, vous avez vraiment un rôle important à jouer comme journaliste. Merci d'être venu aujourd'hui. Et en fait, je vais donner quelques exemples pour essayer d'illustrer les défis et les écarts entre les réalités vécues et comment on encadre ces réalités-là. Donc, en fait, souvent, en fait, on utilise un langage et une rhétorique qui vise à convaincre, hein, qui essaie moins de comprendre toutes les nuances et les compréhensions du travail de sexe, mais qui essaie de convaincre envers une certaine position. Donc, le ministre Maka, lors d'une conférence de presse, en fait, en juin, en annonçant ce projet de loi, a fait une association entre les clients et les pervers. Une utilisation justement du langage qui vise à convaincre d'une certaine manière. Souvent, en fait, il y a même de fausses informations qui circulent et qui sont reprises. Donc, je vous donne un exemple. La présidente du Conseil du statut de la femme, Julie Miville-Deschenes, a publié un éditorial en mars 2014. Après, elle avait assisté justement à une patrouille avec un policier en Hochelaga de Maisonneuve. Et elle disait en fait qu'elle parlait justement des travailleuses de roue qui consommaient de la crack. Et elle disait en fait qu'en règle générale, elles étaient toutes infectées par les ITS. Mais moi, je peux vous le dire parce qu'en fait, les infections transmises sexuellement, c'est un domaine de mes expertises. Hein. J'ai une chaire de recherche dans le domaine du VIH-SIDA. Et je peux vous dire que les données épidémiologiques, c'est-à-dire le portrait que nous avons au gouvernement au niveau justement de l'épidémie VIH et les ITS, ces données-là n'incluent pas en fait une catégorie travailleuse du sexe. Ces données n'incluent pas une catégorie travailleuse du sexe qui consomme de la crack. Autrement dit, elle véhicule des énoncés, elle fait une association entre travail du sexe, consommation de crack, ITS, sans avoir les preuves à l'appui. Un autre exemple, justement, lors de l'annonce de ce projet de loi, le gouvernement a proclamé que, justement, les Canadiens sont en faveur de ce modèle. Et ils ont fait recours à leur sondage. Ils ont fait un sondage, en fait, demandant aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de ce projet de loi. Deux enjeux méthodologiques très importants. En premier, il n'y avait rien qui empêchait la même personne de se mettre plusieurs fois, justement, dans le cadre de ce sondage-là. Donc, pouvoir quantifier, en fait, après toutes les réponses et dire, oh, mais les Canadiens sont en faveur, relève d'un biais méthodologique. Deuxièmement, les questions orientées d'une certaine manière les réponses. Hein. Est-ce que vous êtes en accord avec ce modèle de pénaliser les clients? Hein? Ça oriente déjà. Au lieu de demander, est-ce que vous êtes en accord que des relations consentantes entre adultes ne soient pas criminalisées? C'est toute une autre question qui va donner toute une autre réponse, à mon avis. Donc, des enjeux méthodologiques très importants. On contraste ça, en fait, avec les résultats d'un sondage fait par Angus Reid en 2010. Et ce sondage-là, en fait, disait que 54% des Québécois étaient en faveur de la décriminalisation de la prostitution.